Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de la session XYZ, je sais plus, de Positron. On pourrait l'appeler la session Z. Je sais pas pourquoi. Z, ça me paraît bien. De la session Z de Positron, je suis Patrick Béja. Nous allons vous présenter trois trucs cool, produits culturels. Alors, films, séries, BD, comics, etc., etc. C'est de ça dont on vous parle dans Positron. Et aujourd'hui, nous avons donc trois produits culturels à vous recommander. Pour m'aider à recommander des trucs cool, nous avons de ce côté du podcast Jérôme Kainborg. Comment vas-tu, Jérôme?
Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous.
Et de l'autre côté du podcast, Timothée Graveline. Comment vas-tu, Timo?
Salut, ben très bien, très bien, bonjour.
Je pense que vous êtes gonflé à bloc pour un positron incroyablement réussi.
Pourquoi? Total. Il y en a des ratés?
Mais excellente réponse, Jérôme. Je vois qu'il y en a un qui suit, qui sait comment ça marche. Écoutez, on va pas faire de chichi ou de d'autres formes d'introduction et on va se lancer tout de suite avec une série qui vaut vraiment le coup d'être vue, qui a été pour moi une de mes séries préférées pendant très longtemps. Maintenant, elle date peut-être un peu, mais je pense qu'elle reste agréable à regarder. C'est une série du grand maître Joss Whedon, à savoir, et c'est aussi une série qui a été assassinée dans son enfance, ce qui contribue peut-être à sa légende. C'est la série Firefly, qui a été diffusée en 2002 et qui s'est arrêtée après seulement 15 épisodes, dont 13 publiés. Et c'est une série, j'ai entendu les deux soupirs de mes co-animateurs, j'en comprends qu'ils la connaissent eux aussi. Une série pour laquelle tous ceux qui l'apprécient ont justement une appréciation sans limite, quoi.
C'est clairement nommé de par son histoire et son arrêt brutal et assassiné par Fox. Elle a tous les ingrédients pour devenir. Elle est devenue une série culte dans la culture geek, on va dire au sens large. Elle est cultissime. C'est pour moi une série aussi culte que Profit. C'est des séries qui ont été assassinées, comme tu l'as très bien dit, alors qu'elles étaient en avance sur leur temps, enfin novatrices extraordinaires, quoi.
Moi, je l'ai connu à l'envers, cette série. J'ai connu d'abord par le film Serenity, que j'avais détesté. Et du coup, Cédric qui m'a fait... Cédric, compère de Geek Inc, qui m'a fait « Mais non, mais faut que tu regardes la série Firefly, c'est génial et tout. » Je fais « Oh, encore un autre truc. » En plus, si ça a été annulé au bout de 15 épisodes, c'est que ça doit vraiment être de la merde. Tu parles, j'ai commencé, j'ai enchaîné les 15 épisodes, je me suis rematé le film et j'étais « Ok, c'est cool, maintenant je suis pas fan.
» C'est vrai que le film, si t'as pas vu la série, c'est un peu rude, quoi.
C'est la conclusion, la sorte de conclusion qu'ils ont réussi à faire pour ça. C'est arrêté comme ça, en plein milieu de nulle part.
C'est ça, ouais. Et puis c'est vrai que bon, le film est sympathique, mais bon, si t'as pas l'historique de la série derrière, ça veut pas dire grand-chose. Et effectivement, donc pour reparler de cette série, de quoi s'agit-il ? C'est une série. Alors on peut pas parler de la série sans parler de Joss Whedon, créateur de génie, auteur merveilleux, pour lequel j'ai une admiration sans borne, que certains connaissent peut-être parce qu'il a réalisé le film Avengers, qui est l'un des films les plus regardés. Les plus gros succès de tous les temps. Avengers 2 est moins bon, mais ce qu'on remarque surtout chez Joss Whedon, c'est un style qui a pour le coup imprégné absolument toute la production hollywoodienne aujourd'hui. C'est un style d'écriture qui a à la fois un humour très particulier qui parle beaucoup aux gens de notre génération, et puis surtout qui joue avec les codes établis par les différents genres qu'il attaque de manière géniale. C'est-à-dire que il y a, quand on regarde un certain style de série ou de film, des choses qu'on attend dans ces styles, parce que tous les films fonctionnent comme ça, et puis il y a des poncifs de ces styles qui sont systématiquement là. Et lui, il joue avec ses attentes, il vous en donne un petit peu et puis il retourne la situation ou alors il retourne le rôle du personnage ou etc etc. Et c'est ça c'est extrêmement présent aussi dans Firefly qui et donc je viens au style de la série est une série de science-fiction où il y a une c'est une sorte de post-guerre civile américaine dans l'espace. C'est-à-dire que l'espace a été conquis. Il n'y a pas, ça c'est un point hyper important, il n'y a pas d'aliens dans cette série. Il n'y a pas toutes ces conneries avec les différents aliens qui sont en fait des acteurs humains qui ont des prothèses débiles sur la tête pour leur donner alors lui il a une sorte de crête, lui il a des cornes, lui il est tout bleu. Non, il n'y a juste pas d'aliens et basta et c'est tout. Donc c'est
attention à pas trop te moquer de Star Trek quand même.
C'est pas que de Star Trek. Hein, mais,
c'est que jusqu'à ce que tu le dises, j'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas eu un seul alien dans cette série.
C'est vrai. Ah bah, écoute, voilà.
Ça m'a pas marqué, quoi.
Bah, ça, en fait, c'est tellement bien amené. Les enjeux sont vraiment ailleurs. L'humanité a conquis la galaxie. Il y a eu une sorte de guerre d'indépendance qui a échoué. Et on a une fédération qui unit l'humanité dans la galaxie. Et notre héros est un capitaine qui était dans la rébellion. C'était un petit peu un indépendantiste dans la guerre. Il s'est battu pour la rébellion. Il a perdu beaucoup de choses. Maintenant, il s'appelle les Browncoats, qui sont d'ailleurs les Browncoats, c'est des groupes de gens qui aiment toujours la série et qui font des conventions, etc. Bref, et maintenant, il veut que la fédération le laisse tranquille. Il veut juste avoir son vaisseau et être tranquille dans l'espace avec son équipe. Et il crée une sorte de famille de coéquipiers autour de lui qui sont tous différents, qui ont tous des motivations différentes. Et ils ont un vaisseau qui est un petit peu pourri, bien sûr, en théorie, mais qui en fait est super bien parce qu'il a un super pilote, etc. Et ils vont vivre des aventures dans l'espace. Il y a bien sûr un arc narratif qui couvre la série, qui réunit tous les trucs, mais il y a aussi des petites histoires à chaque fois, à chaque épisode. Et c'est un peu le meilleur western de l'espace, de toute l'histoire du cinéma et des séries télé. C'est cet esprit de la conquête de l'Ouest, on est dans des territoires un petit peu inexplorés, mais en même temps il y a le gouvernement fédéral qui est derrière et on a cet esprit de liberté, d'indépendance et les grands espaces, c'est un petit peu le cas de le dire, est hyper bien retranscrit. Enfin, tout fonctionne et en plus on a cet humour de Joss Whedon, cet esprit science-fiction malgré tout, parce que c'est pas un western, même s'il y en a énormément, il y a même régulièrement ils sont dans des territoires, enfin sur des planètes un petit peu dans la pampa, ils sont à cheval, etc.
Ouais, si tu décortiques le scénario, on est plus proche à mon avis du western que du film de science-fiction, mais
Autant on est aussi proche du western dans Firefly qu'on est proche de la fantasy dans Star Wars en fait. C'est vraiment ça quoi. Donc bon, je pourrais encore en parler longtemps. Malheureusement, la série a été interrompue au bout de 13 épisodes et en plus Fox l'avait passé dans le mauvais ordre. Ah, donc on comprenait rien du tout à ce qui se passait. Enfin, c'est honteux la manière dont ça s'est passé. Et le gros problème de la série, c'est que elle avait de bons chiffres d'audience avec des femmes et pas autant qu'ils l'espéraient avec des hommes. Et eux, ils voulaient une série de science-fiction qui plaise aux hommes parce que c'était leur cible marketing. Voilà. Et ils espéraient un truc à la Star Trek et en fait ils ont eu un truc à la Buffy, tueuse de démons, qui de vampires, qui est aussi une série légendaire que j'adore. Génial. Mais très difficile d'accès aussi. Buffy, c'est un truc, quand tu regardes la première saison entière, tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Et pourtant, enfin bref, on va pas parler de Buffy, ouais. Ça sera peut-être le sujet pour un autre jour. Mais Firefly, donc, vraiment, aurait pu devenir quelque chose comme ça.
Ce casting, quand même, absolument formidable, quoi. Et Nathan Fillion, qui a été découvert par Firefly, qui porte la série. Enfin, il est aussi important à Firefly que Harrison Ford l'a été à Star Wars, quoi. Il a incarné le personnage. Et justement, on peut se dire, ouais, c'est Star Wars en plus petit avec des bretelles, le Capitaine Rebelle, le vaisseau, c'est le Millennium. Justement, il a réussi, Nathan Fillion, je trouve, va donner une autre saveur à un personnage type Han Solo, mais une saveur très particulière avec un humour qui est différent de celui d'Harrison Ford, que j'ai trouvé très moins masculin justement, avec un côté un peu loser fragile qui se casse un peu la gueule, qui est assez rigolo et maladroit, qui est vraiment sympa quoi.
Ouais. Et puis il y a des épisodes, enfin l'écriture est tellement, c'est évidemment des budgets, et puis c'était à l'époque, hein, 2002, vous imaginez bien que on pouvait pas faire autant de choses avec des budgets limités qu'on peut le faire aujourd'hui, mais ils font tout fonctionner. Il y a des trouvailles, par exemple le dans l'espace, c'est la première le premier exemple à ma connaissance où le son dans l'espace est réaliste, c'est-à-dire qu'il y en a pas. Dans l'espace, forcément, il n'y a pas de bruit. Donc, quand on voit les vaisseaux qui évoluent dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Et ça donne une impression très différente. Il y a plein de trucs comme ça dans la série. Enfin,
il y a un peu Battlestar Galactica, enfin le reboot de Battlestar Galactica qui fait ça aussi. Avec
tout à fait. Mais c'est venu après Firefly.
Mais c'est venu après, ouais.
Donc voilà. Bon, bah écoutez, je suis très content que tous les deux vous soyez aussi fans.
D'ailleurs, si vous aimez ce genre-là au niveau animation, il y a une il y a un vieil animé qui s'appelle Cowboy Bebop, qui est exactement du même genre que Firefly. C'est le même type d'ambiance, c'est le même côté western par moment, c'est le même.
Il y a
côté
du steampunk hein, aussi dedans, hein, vachement. Enfin, un petit peu de steampunk dedans et.
Ouais, d'accord. Pour moi, Firefly, c'était le mix parfait entre Cowboy Bebop et Buffy, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Ok, bon bah écoutez, Firefly, voilà, vous si vous n'avez pas envie de la regarder maintenant, c'est plutôt pour les fans quand même de ce style, je dirais, mais si vous êtes, si vous avez pas envie de la regarder, je sais pas ce que vous faites, quoi. Voilà. Jérôme, de quoi nous parles-tu ?
Eh ben moi, je vais vous endormir, je vais vous parler d'un documentaire d'Arte. Alors là, tu viens de perdre mais les trois quarts de ton audience. Un documentaire d'Arte en série, hein, il y a 10 épisodes, et ça s'appelle « Chers ennemis ». Les Français et les Allemands. Alors là, le quart qui restait encore vient de fuir. Surtout que c'est un documentaire allemand. Alors là, le quart du quart. Là, on n'a plus personne, on est entre nous. Non, vraiment, c'est une série de documentaires que je vous conseille. Donc, c'est... Alors, en allemand, c'est Geliebte Feinde, donc chers ennemis. C'est toute une série...
T'as pas dit que t'avais pris allemand si,
non, mais j'ai, oui, mais j'ai eu trop ça au bac. Pas, hein. J'ai eu trop au bac. C'était à l'oral et j'ai parlé que anglais. Je n'ai pas dit un mot d'allemand. Bon ben, j'étais une catastrophe en allemand. Oui, je parle mieux espagnol qu'allemand, c'est dire. Et non, c'est une langue beaucoup trop structurée pour moi. En fait, c'est donc une série de 10 épisodes, de 10 émissions qui portent sur les relations franco-allemandes. Et Dieu sait si nos rapports sont extrêmement compliqués. Nous partageons déjà un empereur commun, hein, Charles. Allemagne, ce n'est ni un Français ni un Allemand, hein, il était un peu des deux. Aix-la-Chapelle, je le rappelle, est quand même en Allemagne. Mais en même temps, voilà, Charlemagne massacrait les Saxons. Donc, il y a des rapports extrêmement complexes et on s'aperçoit justement que notre relation de haine-amour prend racine dans une histoire. Et quand je dis haine-amour, c'est que c'est très intéressant. On pense souvent que l'Allemagne est un petit peu l'ennemi héréditaire parce que les deux dernières grandes guerres mondiales, c'était les Allemands contre les Français, pour faire très schématique. Hein. En tout cas, ça a été les sources et les étincelles du conflit. Mais il faut se rappeler qu'on a beaucoup plus de guerres, par exemple, avec les Anglais qu'avec les Allemands. Et on a des périodes d'amitié avec les Allemands et de connivence et de compréhension qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus longues que l'entente cordiale qu'on a avec les Anglais. La perfide Albion, c'est quand même les Anglais. Donc, c'est à travers chaque époque. Alors, ça va parler aussi, on parlait dans l'épisode précédent de Louis XIV, et on s'aperçoit que la vraie haine entre les Allemands et les Français est vachement né à l'époque de Louis XIV avec les guerres sur le Palatinat, la princesse Palatine et pas Palpatine, hein, ne confondez pas.
Elle est moins belle, Palpatine.
Ouais, elle est moins belle. Et que on a fait des massacres en Allemagne, enfin le Louis XIV entre deux entrechats et deux pièces de Molière, n'oubliez pas de faire la guerre, loin de là, et on a quand même massacré des palatinats allemands de manière odieuse, et du coup les Allemands en ont conclu, enfin, dans leur histoire et dans leur collectif, dans leur mémoire collective, le français est devenu l'ennemi héréditaire. Le documentaire est très intéressant parce qu'on a une perspective allemande de cette histoire. Alors, ça peut agacer. C'est vrai qu'ils ont pris deux actrices en plus qui font des petites apparitions.
Alors, parce que des actrices dans un documentaire...
Alors, j'explique. En fait, vous avez des phases de documentaire d'histoire et vous avez des phases de sketch d'une Allemande qui s'appelle Germania et d'une Française qui s'appelle...
Ansania.
Non, Marianne, pardon. Comment je peux oublier le nom de... Bref, qui s'appelle Marianne et qui vont justement jouer sur ces caricatures qu'on peut avoir. Les Allemands qui boivent de la bière, qui mangent des saucisses, les Français avec la baguette de pain, etc. Mais c'est un peu plus fin que ça. C'est vraiment la vision qu'on peut avoir. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a fasciné et je le savais pas. Pourtant, je suis déjà allé en Allemagne, que les Allemands se moquent de notre pain et de notre baguette. Vous vous rendez compte?
Non, mais là, quelle honte.
Je fais très bien le français et elle joue vraiment comme ça. Genre, nous, on est fiers de notre baguette, on a le meilleur pain du monde, personne ne fait de... Et les Allemands qui ont des variétés de pain, mais mille fois plus multiples que nous, qui ont une culture du pain. Alors, c'est sûr que c'est des pains noirs, c'est des choses. Nous, en France, on dit que c'est des pains de pauvres.
Ah, des noirs.
Mais oui, mais c'est des pains beaucoup plus riches, beaucoup plus sophistiqués. Et les boulangers allemands se moquent un peu de la facilité des boulangers français. Et ça, c'est des choses, voilà. Je trouve que par ces petites anecdotes et on voit la France. Ils ont, moi, je trouve assez bien casté Marianne et Germania parce qu'on est vraiment dans les archétypes des réactions françaises par rapport aux Allemands et des réactions allemandes par rapport aux Français. C'est peut-être ce pan-là que je trouve le plus intéressant parce que nous, on sait comment on se moque des Allemands et des vieux poncifs qu'on a sur les Allemands, mais on ne sait pas bien forcément comment les Allemands se moquent des Français et sur ce sur quoi ils se moquent et ce sur quoi ils nous admirent et ce sur quoi on admire les Allemands. C'est très très intéressant. Alors ça couvre les différentes périodes, hein. Ça commence vraiment à l'Antiquité, enfin les périodes romaines, et ça va jusqu'aux guerres mondiales et jusqu'à l'Europe aujourd'hui. Guerre et paix, en passant par des périodes qu'on connaît moins dans l'histoire franco-allemande. Je vous parlais de Louis XIV, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La série a été assez critiquée parce qu'on l'a trouvée caricaturale, mais justement, moi je la trouve pas si caricaturale que ça, et le fait qu'elle soit faite par des Allemands est assez intéressante.
D'accord. Et ben voilà. Écoute, merci beaucoup Jérôme. Ça s'appelle donc Chers ennemis, les Français et les Allemands. Écoutez, on va conclure avec Timo. De quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Je vais vous parler de One Punch Man. Donc c'est le dernier truc qui fait carton. Si tu ouvres Tumblr ou 9gag, tu vas forcément passer des images de One Punch Man, tellement ça a eu un succès incroyable. Du coup, je me suis penché dessus, j'ai vu l'animé qui est disponible sur la plateforme Anime Digital Network, c'est disponible gratuitement. Donc ça va rien vous coûter à ce niveau-là. Et c'est sorti en manga chez l'éditeur Kurokawa. Donc en fait, One Punch Man, il y a eu trois versions. Une version webcomics dessinée par One, dessinée et scénarisée par One, qui est un site qui a atteint plus de 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 visiteurs par jour. Et un jour, sur Twitter, un dessinateur de comics, Murata, qui a dessiné A-Shield Nijuichi, qui a dit en blaguant « Oh, j'aimerais bien bosser avec toi, ça pourrait être cool qu'on se fasse une adaptation ». Du coup, ils sont sortis le manga. Et ensuite, cette année, septembre, je crois que c'était septembre 2015, ils ont lancé l'animé, donc One Punch Man, et ça fait une version un peu, on a le brouillon, on a le storyboard hyper bien foutu, et ensuite, à partir de ça, on fait un animé qui poutre sa race, quoi. L'histoire, on suit Saitama. Donc un jeune homme sans emploi qui un jour va rencontrer un homme crabe, ouais, parce que dans ce monde-là il y a des monstres de partout un peu chelou, qui recherche un petit garçon qui a un menton en forme de cul et il veut le buter. Donc Saitama, lui, il se dit non, je vais essayer de sauver le petit, même s'il est un peu con. Il le sauve, mais non sans mal. Il prend vraiment patate et tout, et il décide de devenir un super héros, et il s'entraîne pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, il va
C'est 3 ans ou 3 mois ?
C'est 3 ans.
T'es sûr? J'avais l'impression que c'était 3 mois où il s'entraînait comme un fou, il faisait genre... On va peut-être pas dévoiler trop non plus.
Pour moi, c'est 3 ans où il fait son entraînement spécial qui fait qu'à la fin, il a plus de cheveux et il est hyper, hyper, hyper fort. Et il est tellement fort qu'en fait, tous les monstres, il les bute en un coup. D'où One Punch Man. Et ça l'ennuie énormément parce qu'il a, il a jamais eu un seul combat. Au début, s'il est devenu un super-héros, c'est parce qu'il recherchait un peu quelque chose à faire dans sa vie, une motivation, un truc qui l'excite un peu. Et puis là, au final, il fait pouf, et hop, le mec, il explose, en mille morceaux et tout. Donc ça l'ennuie un peu. Et en plus, il a sauvé la planète des millions de fois. On le sait pas. Personne le sait. Personne ne le remarque. Et il va rencontrer un jour Genos. Un ado cyborg qui lui le voit faire et qui veut devenir son disciple et tout, et c'est via les monstres qu'il va affronter et la relation avec Genos qu'on va suivre toute cette histoire, et on va réellement s'éclater. C'est vraiment super drôle.
Un petit peu découvrir, oui, d'où ça vient. Enfin, un petit peu, mais...
Ouais. Voilà. Donc, c'est un animé pas prise de tête du tout. Mais alors, vraiment pas. Là, pour le coup, on regarde, on pose son cerveau et on rigole, quoi. C'est vraiment ça. Les premiers épisodes, ou même les premiers chapitres, du coup, dans le manga, faut s'accrocher un peu, parce qu'on sait pas trop où ça veut aller. Il faut attendre au moins 3-4 épisodes dans l'animé pour vraiment rentrer dedans, rentrer dans l'univers qu'ils ont construit avec la gestion des super-héros, la ligue qui gère tout ça, qui note le classement des héros, toutes les divisions des villes en fonction des zones de conflit, etc. C'est vraiment... Faut attendre...
Moi, je vais t'arrêter parce que tu commences à en dire un peu trop, je trouve, sur l'histoire du truc. Mais
l'histoire.
Ouais, mais en fait, il y a en fait une énorme qualité à ce manga que t'as pas, enfin à cet animé que t'as pas encore évoqué. Je sais pas si t'allais en parler, mais c'est l'aspect satirique qui rappelle un petit peu Joss Whedon, en fait. Mais je sais pas si tu voulais en parler aussi.
Si je voulais, c'était satirique ou
c'est-à-dire que
hommage.
Ouais, c'est ça.
Tous les shonen avec lesquels j'ai grandi. Donc les shonen, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est les mangas destinés au public jeune ado. Donc c'est tout ce qui est Bleach, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, etc. Et dès le début, le premier ennemi qu'il affronte, qu'on voit, c'est clairement Piccolo dans Dragon Ball Z. Enfin voilà, c'est le côté où ça pique de partout. Il y a pas forcément, au début, il y a pas forcément de trucs super original là-dedans, mais c'est des clins d'œil à tous les trucs que t'as kiffé, que tu retrouves.
Et puis surtout, il en joue vachement, One. Dans le truc, il y a un exemple que je citerai, mais il y en a des tonnes. À un moment, il y a un des ennemis qui arrive et qui parle avec une voix genre hyper menaçante, et il fait genre « Oui, de toute façon, notre armée va tous vous détruire et nous allons arriver. » Et il se fait battre en 3 coups. Et après, il est complètement désolé et il dit « Oh merde, je suis désolé, vraiment, je voulais pas vous faire de mal. » Et ils lui disent « Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta voix ?» Et il fait « Non, mais ma voix, c'est juste une voix que je prends pour avoir l'air cool. En fait, j'ai pas du tout... » Et c'est que des trucs comme ça qui sont hyper marrants, quoi. C'est
un contre-pied à chaque fois, ouais.
C'est ça.
Genre, un gros méchant qui va commencer à expliquer son projet et tout. Il fait, c'est trop long, trop long, trop long, trop long.
Ouais, il dit, non, mais c'est bon, arrête-toi, j'ai pas le temps.
C'est vraiment ça. Et ça m'a vraiment fait marrer, quoi. Je rigole. J'aime bien les trucs un peu comiques et tout. Mais c'est souvent des petits rires par-ci par-là. Là, c'était vraiment, je rigolais comme un con, quoi.
C'est pas des gros éclats de rire, mais c'est des moments où, enfin, quand il parle sa relation avec Genos, par exemple, et hilarante, et c'est des moments où t'es avec eux, et tu te dis, et t'es en train de ricaner dans ton coin, mais ça s'arrête pas, tu sais, et tu te dis, mais putain, mais quel con.
C'est ça.
Donc,
en plus, c'est vachement plus beau que Dragon Ball Super, donc vous pouvez arrêter cette série de merde et regarder One Punch Man. L'animation, donc au niveau du manga, le trait est très très bien, mais ça manque de, à la limite, ce qu'on pourrait reprocher, c'est que ça manque de personnalité. Ça ressemble vraiment, trait pour trait, à un mix entre du dessin de Bleach et de Dragon Ball, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment un trait particulier. Là, c'est vraiment plus l'histoire qui va améliorer tout ça. Et l'animation, par contre, ils ont fait un très très bon travail d'animation au niveau de l'animé, qui est hyper dynamique, hyper propre, hyper beau. Et ça, ça vient amplifier le fait que cette série vaut vraiment le coup d'être regardée. Il y a 12 épisodes, je crois, qui sont sortis. 12 ou 11.
Ouais, c'est assez court, ouais.
Ouais, c'est très court, donc ça va pas vous prendre trop de temps et il va vous tarder de voir la suite, quoi. Parce que.
C'est clair.
Ça fonctionne.
C'est vraiment sympa. Bon, c'est quand même pour les fans, malgré tout. Faut être fan d'animé et d'animé d'action, parce que sinon vous allez même pas comprendre les références. Mais si vous l'êtes, je pense que c'est le truc à ne pas. C'est aussi pour ça que ça a tellement de succès en ce moment, c'est que c'est un truc qui est tellement différent et qui parle de tout le reste que c'est celui à ne pas rater, quoi. Donc effectivement, One Punch Man. Écoutez, merci beaucoup messieurs, on va conclure cet épisode avec, comme toujours, l'occasion pour vous deux de nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par Jérôme Kainborg.
Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech TV et vous pouvez me retrouver également dans l'émission Techscope qui a lieu tous les matins en live à 8h du matin, c'est donc une matinale pour les matinaux où on vous fait une revue de presse, Marion et moi-même on vous fait une revue de presse de la technologie, ça se passe sur Periscope et il y a un replay ensuite sur une chaîne YouTube dédiée si vous avez raté l'épisode du matin. Voilà.
Magnifique, merci Jérôme. Timo.
Mais moi, on peut me retrouver donc dans Too Many Books, une chaîne YouTube dans laquelle je parle essentiellement de comics et de littérature, présentée avec Audrey, donc ma compagne qui est aussi dans Geek Inc. Il y a Cédric qui intervient régulièrement dans cette émission, donc vous devez connaître un petit peu. Et c'est en live tous les vendredis soirs, donc c'est une émission où on parle de toute la culture geek aussi. Et vous pouvez me retrouver en supplément en live aussi le jeudi, de 13h à 14h sur une émission qui s'appelle Geek Inc. Inc. où on apprend à dessiner tous ensemble. Et donc voilà, et c'est @abrutim sur Twitter.
Sublime. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook et FrenchSpin.fr si vous voulez retrouver cette émission et d'autres encore qui pourraient vous plaire. Accessoirement, vous avez, je le mentionne pas assez souvent, Upload qui est en alternance avec Positron. Donc une semaine sur deux, on a l'un, une semaine sur deux, on a l'autre. Et donc la semaine prochaine, vous aurez bien sûr, j'espère, un Upload. Et c'est un petit peu le même genre d'humour potache et ridicule. Donc il est pas impossible que même si vous n'appréciez pas particulièrement, vous n'êtes pas particulièrement intéressé par les recommandations d'app, qui est ce qu'on fait dans Upload, vous pourriez apprécier quand même l'émission parce que c'est quand même très drôle. Donc
on est d'accord, Patrick. On pourrait parler du point de croix dans Upload. Les applications ne sont qu'un prétexte.
Un prétexte à nous retrouver avec Jérôme, Cédric et Corben toutes les deux semaines. Donc voilà, une recommandation en plus, c'est Upload. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Ciao à tous!
Salut! Dumb, 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 dumb